Nous sommes heureux de nous retrouver cet après-midi et nous allons continuer ce que nous avions commencé il y a deux dimanches déjà, enfin deux dimanches avec ma présence. Nous avons commencé, rappelez-vous, il y a quelque temps, une étude sur les miracles de Jésus dans l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés cet après-midi au troisième de ces miracles. L'histoire vient d'être lue. Vous vous souviendrez sans doute que j'avais lu, en même temps que ce texte de Jean chapitre 5, les deux dernières fois, ces deux versets qui sont importants dans l'évangile de Jean, à la fin du chapitre 20, où l'évangéliste Jean écrit ceci: « Jésus a encore produit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans cet évangile, dans ce livre. » Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que cette foi en son nom. Nous avons dit la première fois, lorsque nous avons étudié le premier miracle, que chacun des miracles que Jésus accomplit dans l'évangile de Jean, chacun de ces miracles a été soigneusement choisi par l'évangéliste Jean parmi tous les miracles que Jésus a accompli pendant les plus ou moins trois ans de son ministère, pour expliquer quelque chose. Chaque miracle, et dans l'évangile de Jean, souvent dans la plupart des traductions, le mot qui parle de miracle dans l'évangile de Jean, c'est le mot « signe ». L'évangéliste Jean aime, exprimer l'idée que chaque acte surnaturel que Jésus a accompli, chaque guérison, chaque délivrance qu'il a accompli, a une signification particulière. Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce que Dieu fait a une signification profonde. Tout ce que Dieu fait a un but précis. Aujourd'hui, nous allons donc voir l'histoire de cet homme qui était malade, d'après le récit, depuis 38 ans. La signification de ce miracle a évidemment un rapport avec cette durée, 38 ans. 38 ans, c'est long. Je pense que la plupart d'entre vous seraient d'accord avec moi, puisque vous n'avez certainement pas encore 38 ans. À part votre pasteur et moi-même, probablement que la plupart d'entre nous, je ne sais pas, je ne m'aventure pas trop, mais disons quand même que la plupart d'entre nous n'ont pas 38 ans. 38 ans, c'est long. Si j'essaye de me souvenir où j'étais il y a 38 ans, eh bien j'avais 20 ans, ça fait loin. Il me semble qu'il y a longtemps que j'avais 20 ans. Mais depuis ces 38 ans-là, pendant ces 38 ans-là, je n'ai pas été malade. Quelqu'un qui est malade pendant 38 ans est forcément dans un certain état, pas simplement physique, mais moral, psychologique. Ce n'est pas facile d'être malade, ce n'est jamais agréable. Mais être malade pendant longtemps, c'est encore plus terrible. Je rendais visite hier soir à notre ami Patrick, mari de Rosemay, qui lui est malade depuis, je crois que c'est le début du mois d'octobre. Comment ? Oui, ça va mieux. Il va de mieux en mieux, son état général s'améliore, mais il n'est pas encore complètement rétabli. Cela prendra encore un peu de temps. Mais bien sûr, cela ne va pas prendre 38 ans. Ça fait peut-être 38 jours, plus ou moins. Mais 38 ans, c'est très long. Nous allons voir cet après-midi que Jésus, nous avions dit la première fois que Jésus est le maître de la qualité parce qu'il a transformé de l'eau en vin lors d'un mariage. Nous avions vu le mois dernier, que Jésus est le maître de la distance quand il a guéri cet homme qui habitait à 40 km, dont le fils était gravement malade, sur le point de mourir. Et Jésus a dit « Va, tu peux y aller, ton fils va vivre ». Il a guéri ce jeune homme qui était à 40 km. Aujourd'hui, nous allons voir que Jésus est le maître du temps. Le message ici que nous trouvons, c'est que peu importe que nous ayons un problème, une difficulté, une adversité, une maladie, Depuis longtemps, cela n'est pas un obstacle pour Jésus. Cela peut être un obstacle pour la foi du malade. Parce que, étant malade depuis très, très longtemps, peut-être avait-il prié Dieu, cet homme, pendant ses 38 ans, demandant à Dieu de l'aider. Peut-être avait-il simplement demandé à Dieu de l'aider à tomber le premier dans l'eau. Puisque, comme nous l'avons lu, au bord de cette piscine de Jérusalem, dans la piscine, il se passait quelque chose d'assez étrange. On avait remarqué que lorsque l'eau, de temps en temps, l'eau de la piscine commençait à bouger, il y avait des vagues, un petit tourbillon, et on avait remarqué que la première personne qui descendait dans l'eau à ce moment-là ressortait de l'eau guérie. Bon, on ne peut pas très bien expliquer cela, c'est un phénomène peut-être naturel, peut-être qu'il y avait une source d'eau. Bon, il se passait en tout cas cette chose-là. Vous savez, on ne peut pas toujours tout expliquer. Mais ici, l'important, ce n'est pas de tout expliquer, ce n'est pas de savoir pourquoi cette eau bougeait et pourquoi chaque fois qu'une personne descendait la première dans l'eau, elle était guérie. Nous ne savons pas pourquoi, mais ce que nous savons, c'est que ce jour-là, Jésus est venu. Jésus est venu auprès de cette piscine. Cette piscine s'appelait, nous l'avons lu en hébreu, Bethesda. Bethesda, c'est un beau nom. Bethesda, en hébreu, veut dire la maison de la miséricorde, la maison de la compassion. Et s'il est une maison qui est la maison de la compassion, c'est bien la maison de Dieu. C'est bien la maison où Dieu est présent. L'Église, par exemple, est une maison de compassion. Il y a d'ailleurs dans le monde un certain nombre d'églises qui s'appellent l'église Bethesda. C'est un très beau nom. Bon, il y a beaucoup d'autres beaux noms. Mais cet après-midi, nous voulons nous arrêter sur ce mot, parce que la compassion, c'est une partie intégrante du ministère de Jésus. La compassion, c'est une des caractéristiques de la nature de Dieu, et bien sûr de Jésus. La compassion est présente dans la parole de Dieu très souvent. Nous voyons par exemple dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, il est dit, je lis ceci, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait toute maladie et toute infirmité, et en voyant les foules, il était ému de compassion, parce qu'il les voyait comme lassés, abattus et comme des moutons qui n'ont pas de berger. » La compassion, c'est donc un mot clé dans la Bible. La compassion nous dit que Dieu, Jésus, comprenne la situation des êtres humains. Ils comprennent la douleur de ceux qui souffrent. Et ils comprennent aussi la joie de ceux qui se réjouissent. Nous voyons une deuxième chose, c'est que parmi toute cette foule de malades, qui nous fait penser aussi à notre époque, parce qu'à notre époque, de nombreuses personnes sont malades. La preuve, c'est que lorsque, vous savez que bientôt la fin de l'année en France, le nouvel an vietnamien, je pense que c'est à une autre date, oui, mais à la fin de l'année en France, en tout cas, vous avez remarqué que les gens se souhaitent une bonne année, et puis, à chaque fois, que disent-ils en premier, parmi leurs souhaits, de bonne année pour l'autre? La première chose qu'ils disent toujours, moi je l'entends depuis que je suis tout petit, depuis près de 50 ans, j'entends toujours les gens dire, et surtout, bonne santé. Comme si la bonne santé était la chose essentielle. Bon, c'est important d'avoir une bonne santé. Il vaut mieux être en bonne santé qu'en mauvaise santé. Jésus a montré cela, que c'était important, puisque quand il était sur terre, il a, comme il le fait aujourd'hui dans ce texte, guérit les gens qui étaient malades. Mais autour de cette piscine, Jésus arrive sans doute avec ses disciples et il voit tous ces malades qui sont allongés, assis, près de l'eau, qui attendent. Probablement qu'au moment où Jésus était là, l'eau ne remuait pas. Jésus a vu toute cette foule de gens, nous ne savons pas quel sentiment, mais on peut imaginer que le sentiment qui a traversé son cœur, c'est un sentiment de compassion, devant toute cette foule de gens qui étaient là depuis plus ou moins longtemps. Et parmi toute cette foule, Jésus remarque un homme. Est-ce qu'il l'a remarqué parce qu'il avait un visage fermé, le visage fermé de celui qui souffre depuis longtemps, de celui qui est découragé, de celui, comme il va le dire dans quelques instants, qui est là, abandonné de tous, puisque lorsque Jésus va lui dire « Est-ce que tu veux être guéri ?» Nous allons revenir tout à l'heure sur cette question un peu étrange. Quand Jésus lui dit « Est-ce que tu veux être guéri ?» cet homme ne répond pas « Oui, je veux être guéri » ou « Non, de toute façon maintenant, ça fait trop longtemps que je suis malade, je suis habitué. » Non, cet homme va lui répondre, en fait il ne répond pas à la question de Jésus. À la question de Jésus « Veux-tu être guéri ?» cet homme va répondre « Je n'ai personne. » D'un air de dire « Si je n'ai personne, j'ai beau vouloir être guéri, je ne serai pas guéri. Parce que je suis paralysé, je ne peux pas me déplacer, et si j'arrive à me déplacer, c'est très lentement, et quand je tombe dans l'eau, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui est tombé juste avant moi. Donc après, non seulement je suis dans l'eau, je ne suis pas guéri, mais il faut que j'essaye de remonter. Et je n'ai personne. » D'un air de dire, chacun pour soi. Chacun ici cherche son bonheur et n'est pas spécialement attentif au bonheur de l'autre. Jésus voit cet homme parce que Jésus voit tous les hommes. C'est aussi le message de cette histoire. Jésus voit tous les hommes. Il voit tous les êtres humains. Nous le voyons dans l'Évangile, souvent s'occuper d'hommes et de femmes, de situations, de conditions sociales différentes. Par exemple, Jésus voit un jour, en passant devant un arbre, il sait, il voit, il aperçoit à travers les feuilles un homme qui s'appelle Zachée. Zachée s'était caché, mais Jésus l'a vu quand même, parce que Jésus voit tout le monde. Une autre fois, il sent que quelqu'un vient de le toucher dans la foule. C'est une femme qui, elle aussi, est malade depuis longtemps, depuis 12 ans. Et la Bible dit, son état ne s'améliorait pas, elle avait été voir tous les médecins les meilleurs du pays, mais non seulement elle n'allait pas mieux, mais son état ne faisait que s'aggraver. Il est évident que quand on va voir tous les médecins les uns après les autres et qu'aucun ne trouve la solution, notre état ne peut que s'aggraver. Jésus a senti que cette femme l'avait touché, il s'est retourné, il l'a vu, parce que Jésus s'intéresse à tout le monde. Alors, la grande question, le tournant de notre histoire, c'est cette question que j'ai qualifiée d'étrange il y a quelques instants. Quand Jésus voit cet homme, il s'approche de lui. Jésus sait que cet homme est malade depuis longtemps, soit parce qu'on le lui a dit, soit parce que peut-être les voisins de cet homme lui ont dit « Oh, vous savez, monsieur, il est là depuis très longtemps, il est malade depuis 38 ans. » Ou alors peut-être que c'est simplement le Saint-Esprit qui le lui a révélé. En tout cas, Jésus voit cet homme, il sait que cet homme est malade depuis 38 ans, Jésus sait que c'est difficile de souffrir pendant si longtemps. Jésus voit sans doute sur le visage de cet homme ces traits tirés, cette fatigue, ce découragement, peut-être même cette dépression nerveuse due à sa condition et à son incapacité de guérir. Mais cela importe peu. Jésus voit cela, mais il est là dans un but. Sortir cet homme de sa misère. Et il va lui poser donc cette question, veux-tu être guéri? Vous savez que c'est une question, je l'ai dit il y a un instant, c'est une question étrange, mais Jésus pose parfois des questions étranges. Pas pour nous embarrasser, Jésus ne fait jamais rien pour nous embarrasser. Ce qu'il fait, Jésus le fait toujours pour notre bien, rappelons-nous cela. Lorsque les événements nous déconcertent, lorsque nous sommes surpris par la tournure des choses, disons-nous bien une chose, c'est que Dieu permet cela pour que nous réfléchissions, pour qu'il puisse nous parler. Par exemple, à l'aveugle Bartimée, qui est malade, nous dit la Bible, depuis sa naissance, quand Bartimée appelle Jésus qui passe sur le chemin, Jésus fait venir Bartimée à lui, et vous savez ce qu'il lui demande ? « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Mais Seigneur, cet homme est aveugle. Tu ne devines pas ce que cet homme voudrait ? Jésus pose la question cependant parce qu'il veut savoir si cet homme veut vraiment changer de condition. Il y a des gens qui s'habituent à leur condition. Il y a même des gens qui ne veulent pas être guéris parce qu'ils sont habitués à ce qu'on s'occupe d'eux, à ce qu'on les porte, à ce qu'on les assiste. Parfois même, il y a des gens qui ne veulent pas trop guérir parce qu'ils ne travaillent pas à cause de leur maladie et ils n'ont peut-être pas envie non plus de se prendre en charge, de prendre leurs responsabilités et de se mettre à travailler. Alors Jésus s'approche de cet homme, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Nous l'avons vu, nous l'avons rappelé il y a quelques instants. Cet homme répond à Jésus « Je n'ai personne. » Or ici, si on est malade et qu'on ne peut pas se déplacer, on a besoin de quelqu'un. Et si ce quelqu'un n'est pas là, puisque moi je n'ai personne pour m'aider, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, mes voisins ils sont malades comme moi donc ils s'occupent d'eux-mêmes, je ne peux pas guérir puisque je n'ai personne. Mais Jésus pose la question simplement parce qu'il veut que cet homme se rappelle qu'il a malgré tout une volonté. La Bible nous dit que nous avons une volonté et que cette volonté nous pouvons l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Quand Jésus dit à l'aveugle Bartimée « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» il veut entendre l'aveugle Bartimée dire « Seigneur » et c'est ce qu'il va dire d'ailleurs « Seigneur, je veux guérir. Je veux vivre une vie normale. Seigneur, je veux guérir parce que je voudrais travailler comme tout le monde. Je veux pouvoir être indépendant. Je veux pouvoir me prendre en charge, Seigneur. Je veux pouvoir vivre dans ma vie le plan que tu as pour moi. » Et à cet homme, Jésus va poser la même question, ou plus ou moins la même question, « Est-ce que tu veux être guéri ? Est-ce que c'est cela vraiment ton but ? Parce que tu es malade depuis 38 ans, tu es habitué comme cela. Mais est-ce que tu ne veux pas te contenter de rester là au bord de cette piscine en attendant qu'un jour, peut-être, tu auras ton jour de chance et tu guériras parce que tu tomberas dans l'eau le premier ? Est-ce que tu veux guérir maintenant ? » Vous savez, des fois, on a des problèmes, puis on dit « Oh, je crois que le Seigneur va m'aider, je crois que le Seigneur va m'aider à résoudre ce problème, un jour ou l'autre, ça arrivera. » Mais Jésus n'est pas le Seigneur d'un jour ou l'autre. Rappelez-vous, quand nous le verrons plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, lorsque Jésus va accomplir ce miracle qui est raconté uniquement dans l'évangile de Jean, de la résurrection de Lazare, le frère de Marthe et Marie, Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare, qui est mort depuis 4 jours, « Ton frère va ressusciter. » Et Marthe lui répond, « Je sais, Seigneur, qu'il va ressusciter, au dernier jour, lors de la résurrection finale des morts. » Mais Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, maintenant. » Pas au dernier jour, oui, au dernier jour, bien sûr, mais je suis aussi aujourd'hui la résurrection. Alors, quand cet homme répond à Jésus « Je n'ai personne », il commence à se lamenter. Jésus le regarde et lui dit tranquillement « Lève-toi. Lève-toi. Prends ton lit. » Bon, bien sûr, c'était sans doute pas un lit comme nos lits actuels. C'était pas un lit avec, une armature métallique, un sommier, un matelas. C'était bien plus probablement à l'époque un simple matelas que l'on roulait, que l'on déroulait, que l'on posait par terre. Et alors, Jésus lui dit, « Lève-toi maintenant. Prends ton matelas. » Sous-entendu, roule-le et marche. Rentre chez toi. Tu es guéri. Et la Bible dit que cet homme s'est levé, il a pris son lit, et ensuite, il est allé marcher. L'homme qui avait été guéri, attendez, c'est au verset, aussitôt, voilà, au verset 9, « Aussitôt, l'homme retrouva la santé, il prit son lit, son matelas, et se mit à marcher. » Que nous enseigne cette guérison ? Premièrement, que lorsque Jésus veut nous aider dans tous nos problèmes, mais que la première étape pour sortir de nos difficultés, c'est premièrement d'arrêter de regarder la difficulté. Le problème de la plupart des gens qui ont des problèmes, c'est qu'ils n'arrêtent pas de regarder leurs problèmes et d'y penser. Et on en parle. Et quand vous avez des gens que vous rencontrez ou que vous avez au téléphone, « Ah, mais tu ne sais pas ce qui m'arrive. Si tu savais dans quel état je suis. » Et alors, excusez-moi l'expression populaire, on repasse une couche. On s'enfonce encore plus profondément dans le problème, parce que plus on en parle, plus on y pense, plus on pense que notre situation est grave. La première chose que Jésus dit, « Arrête de regarder ta misère. » La deuxième chose, c'est « Arrête de dépendre des autres. » « Seigneur, je n'ai personne. » Mais Jésus n'a pas dit que notre guérison dépend des autres. Notre libération dépend des autres. La résolution de nos problèmes dépend des autres. Vous savez que Jésus s'est toujours adressé à l'homme, à l'être humain, directement. Jésus ne nous a jamais demandé de passer par quelqu'un pour obtenir la libération, la délivrance, la résolution de nos problèmes. Jésus lui dit « Lève les yeux et regarde-moi. » Vous rappelez cet homme dans les Actes des Apôtres qui était à la porte du temple tous les jours et à qui Pierre qui demande de l'argent à Pierre et Jean, et Pierre lui répond: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et avant de dire cela, Pierre lui dit: regarde-nous. Quand nous voulons sortir de nos difficultés, la première chose à faire, c'est de tourner nos regards, éloigner notre regard du problème et regarder à Jésus. Et ensuite, la dernière étape, c'est d'obéir à Jésus. Le pouvoir de l'obéissance dans la Bible, c'est par cela que j'aimerais terminer. Dans la Bible, nous lisons que l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Jésus est toujours la solution du problème. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament l'histoire de ce général syrien qui s'appelait Naaman. Naaman avait la lèpre, il était gravement malade. C'était un drame pour lui parce que Naaman était un général très en vue, très connu, très populaire. Et un jour, il a eu la lèpre, il a dû se rendre en Israël pour rencontrer un prophète de Dieu, le prophète Élisée, qui a dit « Va dans le Jourdain, la rivière du pays, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » Et vous savez que Naaman, vous rappelez que Naaman a été furieux quand il a entendu cela. Parce qu'il s'est dit « Moi, je pensais que le prophète allait me recevoir chez lui, qu'il allait poser sa main sur moi, peut-être mettre de l'huile sur mon corps, prier pour moi et me guérir instantanément. » Mais au lieu de cela, le prophète lui a dit d'aller jusqu'à la rivière et de se plonger devant tous ses soldats s'il voulait être guéri. Et l'un de ses soldats lui a dit: « Tu sais, maître, si le prophète t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, est-ce que tu l'aurais fait ? Mais le prophète t'a demandé de faire quelque chose de très simple. Il n'y a rien de plus simple que de descendre au bord d'une rivière, de se plonger dans la rivière et de se relever. Et même de le faire 7 fois. Ce n'est pas plus difficile que de le faire 1 fois. Surtout que même en admettant que l'eau de la rivière est froide, une fois qu'on s'est plongé une première fois, on a fait le plus dur. » Alors il s'est plongé 7 fois et lorsqu'il a obéi, à la 7e fois, il a été complètement guéri. Nous voyons cela souvent dans la Bible. Une autre fois, nous voyons l'apôtre Pierre qui, pendant toute la nuit, car il était pêcheur, il pêchait des poissons, pendant toute la nuit, il a essayé de trouver du poisson et il n'a rien trouvé. Jésus lui dit, maintenant, le matin, peut-être au petit matin, à l'aube, Jésus lui dit, ben maintenant, tu vas rejeter encore ton filet. Et Pierre lui dit, Seigneur, mais toute la nuit, j'ai pêché sans rien trouver. Mais puisque tu le dis, je vais le faire. Et la Bible dit, quand il l'a fait, plein de poissons sont rentrés dans son filet, tellement qu'il n'arrivait plus à tirer le filet. L'obéissance dans la parole de Dieu, dans la vie avec Dieu, l'obéissance paye toujours. Souvent, quand Jésus guérit un malade, avant de le guérir, il lui dit, va, fais ceci, va et lave-toi. Ou alors, comme nous l'avions vu la dernière fois, à l'homme dont le fils était gravement malade, va, ton fils va vivre. Ou alors à un autre malade, il va dire, va, tu peux repartir chez toi, ta foi t'a sauvé. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, il dit, lève-toi. L'obéissance à la parole de Jésus est toujours efficace. J'aimerais maintenant conclure et dire ceci. Il y a, dans la fin de ce récit, nous l'avons lu tout à l'heure au verset 14, je crois. C'est cela. Verset 14, nous lisons, « Après cela, Jésus trouve cet homme dans le temple et lui dit, « C'est bien, tu as retrouvé la santé, maintenant ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est une parole étrange. Pendant très longtemps, je me suis demandé ce que cela voulait dire. Et puis, j'ai entendu un jour un prédicateur qui disait ceci. Qu'y a-t-il de pire que d'être malade et seul, puisque cet homme dit « je n'ai personne », qu'y a-t-il de pire qu'être seul pendant 38 ans ? Alors bien sûr, quelqu'un pourra dire « être seul pendant 39 ou 40 ans, ou 45 ans, ou 50 ans ». Mais ce prédicateur a dit « Jésus, pour une fois, car c'est exceptionnel chez Jésus, essaye d'établir un rapport entre le péché et la maladie de cet homme. » Je dis bien, Jésus essaye d'établir un rapport entre le péché que cet homme a pu commettre, ou un certain péché que cet homme a pu commettre, et sa maladie. Je ne dis pas, et la Bible ne dit pas, qu'il y a toujours un rapport entre la maladie et le péché. Ici, c'est assez exceptionnel parce qu'il n'y a que deux endroits dans tout l'évangile, dans tout le ministère de Jésus, il n'y a que deux endroits où on a l'impression que Jésus fait un rapport, non pas entre le péché en général et la maladie en général, comme si toute maladie d'un homme avait une origine dans le péché de cet homme, mais en deux occasions particulières, ici même, quand Jésus voit cet homme, il lui dit « Maintenant que tu as retrouvé la santé, maintenant que tu es guéri, ne pêche plus. Parce que si tu recommences à pêcher, il t'arrivera quelque chose de pire. » Dans un autre texte, dans Marc, chapitre 2, vous savez, c'est l'histoire de cet homme qui était paralysé lui aussi, et que ses quatre amis ont amené à Jésus. Et comme il ne pouvait pas passer par la porte d'entrée de la maison où se trouvait Jésus avec tous ceux qui l'écoutaient, ils ont fait un trou, ils ont écarté les tuiles du toit pour descendre cet homme par le toit afin qu'il descende sous les yeux de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous rappelez-vous que dans Marc chapitre 2, il nous est dit que lorsque cet homme, descendu par ses amis par le toit, est arrivé sous les yeux de Jésus, Jésus l'a regardé et que lui dit-il ? Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et c'est à partir de ce moment-là que Jésus a pu commencer à parler à cet homme et à le faire lever afin que lui aussi soit guéri. Ce sont les deux seuls exemples dans tout l'évangile où un certain rapport est établi par Jésus entre un péché qui a pu être commis et une maladie qui s'en serait suivie. Je dis cela avec beaucoup de précaution, comme vous le voyez, parce que nulle part la Bible n'enseigne d'une manière générale que chaque fois que nous sommes malades, c'est parce que nous avons commis un péché. Que cela soit bien clair. Alors Jésus dit donc à cet homme, ne pêche plus puisque maintenant tu es guéri. Ce qui semble indiquer que cet homme avait peut-être commis une faute. Vous savez, quelquefois, nous commettons des imprudences. Imaginez que si l'hiver vient, parce que je pense que l'hiver va quand même venir, même si nous sommes bientôt à la fin novembre et qu'il fait encore très bon, mais l'hiver viendra bien. Je n'ai jamais vu, depuis 58 ans que je vis en France, je n'ai jamais vu l'hiver passé, enfin la saison de l'hiver passé, sans qu'il fasse à un moment ou un autre assez froid. Bon, eh bien, l'hiver va arriver, et imaginez qu'en plein hiver, si par exemple au mois de décembre ou au mois de janvier, il fait moins 10 l'après-midi, bon, c'est assez rare ça quand même à Paris, mais mettons moins 5, imaginez que vous sortiez, que vous restiez une partie de la journée dehors en t-shirt. Imaginez, ce qui n'est pas très difficile à imaginer, que quelques jours après, si ce n'est le lendemain, vous commenciez à tousser très fort. Ce ne sera pas forcément la grippe A, mais ce sera peut-être tout simplement que vous êtes malade parce que vous avez commis une imprudence. Dieu nous a donné de la sagesse pour que nous l'utilisions. Alors, c'est dans ce sens que je crois qu'on peut considérer que cet homme avait sans doute commis une imprudence, un péché, puisqu'une imprudence, c'est un manque de sagesse. Un manque de sagesse, c'est une forme de péché. Et que cet homme avait donc commis cette faute, et qu'à la suite de cette faute, il était tombé malade. Peut-être avait-il commis une faute ou un acte d'audace, ou je ne sais pas, d'imprudence, qui l'avait fait chuter et devenir paralysé par la suite. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. C'est pour cela que Jésus lui dit, maintenant que tu as retrouvé la santé, ne pêche plus. Parce que sinon, il peut t'arriver quelque chose de pire. Si nous péchons volontairement, alors que nous avons été rétablis dans notre position, il peut nous arriver quelque chose de pire. La chose la pire, bien sûr, comme le dit la Bible, c'est que nous oublions les leçons que Dieu enseigne, que nous oublions le message de la Bible, et que nous oublions que si nous ne faisons pas confiance à Dieu, il pourra nous arriver quelque chose de pire, c'est de nous éloigner de Dieu et de passer toute l'éternité seul, sans Dieu. Que Dieu nous aide à tirer la leçon de cette histoire qui, encore une fois, dans l'Évangile se termine bien. Un homme qui avait pourtant toutes les raisons de désespérer a retrouvé courage, foi et a commencé une vie nouvelle parce qu'il a cru de tout son cœur en Jésus. Que Dieu vous bénisse.